Vous écoutez
RMC.
RMC, il est 7h. Stéphane Jeunesse, Stéphanie Rock, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois titres de ce samedi.
Fusillade mortelle à Jérusalem hier soir. 7 personnes tuées près d'une synagogue. Nouvel engrenage de violence meurtrière entre Israéliens et Palestiniens. Et Bruno Garcia, condamné à de la prison à perpétuité pour l'assassinat de son ex-compagne Julie Dwib.
6 ans après leur dernier sacre mondial, les handballeurs français se sont qualifiés pour la finale. Victoire face aux Suédois, 31-26.
La matinale week-end.
7 morts hier soir à Jérusalem-Est après une attaque dans une synagogue.
Nouvelle escalade de violence dans la région après un raid israélien ces dernières heures en Cisjordanie et à Gaza qui a fait 10 morts. L'attentat d'hier soir a d'ailleurs été condamné par la France et les États-Unis, Martin Cadoret.
Des corps dans les rues de Jérusalem recouverts par des couvertures de survie près de la synagogue où a attaqué ce Palestinien de 21 ans dans une partie de la ville sainte annexée par Israël. Kobi Shabtai est le chef de la police israélienne.
C'est l'une des attaques les plus dures de ces dernières années. Le terroriste a tiré sur quiconque venait sur son chemin. Il a ouvert le feu sur un groupe de policiers qui se trouvait à un carrefour. Ils ont répliqué et ont pu le neutraliser.
Sur les lieux, des dizaines d'Israéliens crient « mort aux Arabes » en accueillant le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'est ensuite exprimé à la télévision.
J'ai convoqué les forces de sécurité pour évaluer la situation. Et nous avons décidé de plusieurs actions immédiates. Je demande aux gens de ne pas se faire justice eux-mêmes. Pour cela, nous avons une armée, une police et des forces de sécurité.
À une centaine de kilomètres dans la bande de Gaza, des scènes de liesse. Des Palestiniens célèbrent cette attaque au lendemain d'un raid de l'armée israélienne ayant fait 9 morts. Azem Al-Ghassem est le porte-parole du Hamas.
L'opération de résistance à Jérusalem est une réponse aux crimes commis par l'occupation à Jenin et une réponse naturelle aux actions criminelles contre notre peuple partout.
La France exhorte Israël et les Palestiniens à s'abstenir d'alimenter l'escalade.
Par ailleurs, aux États-Unis, c'est l'émotion qui prédomine après la diffusion de la vidéo de l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain début janvier. Le président américain lui-même, Joe Biden, se dit scandalisé et profondément meurtri par ces images.
C'est l'information de la nuit. Bruno Garcia, condamné en appel à la perpétuité pour l'assassinat de son ex-compagne Julie Dwib.
Prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et comme en première instance également déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants, Francesca Satel est l'avocate des enfants. Elle espère qu'ils vont enfin pouvoir se reconstruire sereinement.
Un mauvais mari ne sera jamais un bon père. Après, à la place qui est la mienne, on ne peut pas se réjouir de ce genre de décision, puisque peu importe le nombre d'années de prison, rien ne rendra leur mère à ses enfants. Ces enfants, dans leur malheur, ont beaucoup de chance d'avoir les grands-parents qu'ils ont, d'avoir la famille unie et aimante qu'ils ont, parce que cette famille-là, eh bien, elle est leur refuge et elle les rassure. Ces enfants doivent entendre, c'est qu'aimer, c'est pas posséder. Et je veux croire, moi, en l'avenir de ces enfants, je veux croire qu'avec la famille Dwib, avec l'amour de ces gens-là, ils pourront grandir, ils pourront se construire et ils pourront éviter de répéter ce schéma de la violence.
Des propos recueillis par Marion Dubreuil pour RMC. À noter aussi 4 adolescents qui seront jugés après le suicide du jeune Lucas au début du mois, le collégien qui a mis fin à ses jours. Les 4 mineurs vont être jugés donc pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de l'adolescent.
RMC 7h03, on en vient à ce fléau pour la santé publique, les consultations non honorées chez le médecin.
Et il y en a beaucoup chaque année, 27 millions. Alors, plusieurs syndicats de médecins réclament une chose simple, sanctionner financièrement les patients qui leur posent des lapins. Parce qu'en fait, à Modine Réau, le problème, c'est qu'ils prennent la place d'autres personnes qui, elles, n'arrivent pas à prendre rendez-vous.
Dans son cabinet du 15e arrondissement de Paris, le docteur Catherine Desgrois rit jaune.
J'ai eu une nouvelle consultation, pas venue et pas prévenue là à l'instant.
D'autant que c'est le 3e lapin de la journée.
C'est quand même agaçant. Alors moi je les appelle systématiquement, en général ils rappellent pas. Hein.
Des annulations qui pénalisent les médecins mais aussi les autres patients.
C'est une perte de chance pour d'autres personnes qui ont besoin d'un rendez-vous.
Pour Nathan, 29 ans, patient du docteur Desgrois, ses comportements sont inacceptables.
Je trouve que c'est un manque de morale envers les praticiens qui se donnent le mal justement de prendre des rendez-vous pour nous.
Ces annulations représentent aujourd'hui plus de 7% des rendez-vous pris et sont plus fréquentes depuis qu'on prend rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, estime Jean-Philippe Platel, président de l'Ordre des médecins dans le département du Nord.
Cet accès est libre hein, et probablement prennent-ils plusieurs rendez-vous, vont au plus proche et ne pensent pas ou oublient d'annuler les autres. C'est un manque total de respect. Avant toute chose, il faudra responsabiliser les patients d'une manière ou d'une autre et les amener à respecter davantage les soignants.
Mais afin de faire comprendre la leçon, plusieurs syndicats de médecins réclament carrément des sanctions financières.
Et d'ailleurs, la grève des médecins libéraux, elle se poursuit. Les cabinets qui seront de nouveau fermés le 14 février prochain. Nouvelle journée de mobilisation pour réclamer notamment une revalorisation de la consultation.
Et on en parlera juste après le journal avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste en Haute-Garonne, président de l'Union française pour une médecine libre. Pour l'heure, il est 7h04 et on évoque ce chiffre. Au moins 7 ressortissants français sont toujours derrière les barreaux en Iran.
Parmi eux, Benjamin Brière, 37 ans, un touriste arrêté en mai 2020 pour avoir pris des photos de zones interdites avec son drone, condamné à 8 ans de prison pour espionnage. Et bien tout à l'heure à Paris, au Trocadéro, juste devant la Tour Eiffel, les familles se réuniront toutes ensemble pour la première fois. Blandine, la sœur de Benjamin Brière, sera évidemment présente. Elle se bat depuis bientôt 3 ans pour revoir son frère.
J'ai des nouvelles de Benjamin toutes les 2-3 semaines environ. Après, tout est très aléatoire parce que ça dépend des bons vouloirs des gardes sur place et de l'ambiance générale de la prison, je pense. Benjamin, il a le moral quand même au plus bas parce que ça fait trop longtemps qu'il attend. Donc, c'est ces rassemblements qui nous donnent aussi de l'énergie et qui nous permettent de lui transmettre. Mais c'est vrai que Benjamin, aujourd'hui, il est à bout de souffle et il s'en cache plus. Et c'est un réel enfer pour lui et ce depuis beaucoup trop longtemps, en fait. On a 7 otages français, ce qui est énorme aujourd'hui, qui sont détenus dans des conditions inhumaines et on a du mal à garder espoir, quoi.
Place au sport. Stéphanie Roch, ils sont inoxydables. Les handballeurs français vont jouer leur 8e finale mondiale depuis 30 ans.
Ils sont venus à bout des Suédois, 31-26. Une revanche alors qu'ils avaient perdu face à ces mêmes Suédois en demi-finale de l'Euro et en demi-finale du dernier mondial. Arnaud Valadon.
Dans la salle hostile de Stockholm et ses 20 000 Suédois, la France a renversé une montagne, mais malgré la performance XXL, les joueurs avaient déjà basculé sur la finale pour Yannis Len.
Il y a eu une sensation bizarre à la fin du match, il n'y a pas eu d'explosion de joie non plus. C'était, on a passé un cap, mais on sait où on veut aller et on va tout faire pour réaliser le même match encore dimanche.
C'est seulement la deuxième finale pour les Bleus sur les 7 dernières compétitions internationales. Le capitaine Luka Karabatic rappelle que c'est toujours dur d'y parvenir.
Ça montre à quel point c'est difficile. Toutes ces équipes qu'on retrouve à chaque fois, qui sont de plus en plus fortes et nous, ouais, on a réussi à se remettre en question. On savait qu'on était encore là parmi les équipes favorites et jusqu'à présent on a montré, ça c'est bien.
Opposé au Danemark, double champion du monde en titre, la France ne veut qu'une chose, gagner le droit de coudre une 7e étoile sur le maillot.
France-Danemark remake de la dernière finale olympique, c'était la France qui s'était imposée. Coup d'envoi demain 21h en direct sur RMC.
Et puis ça ne tourne plus très rond dans le monde de l'Ovalie. La fédération n'a plus de président.
Depuis la démission de Bernard Laporte hier, le comité directeur de la fédération, largement acquise à son ancien président, a refusé de démissionner. Une situation de blocage que dénonce Florian Grill, président de la Ligue Île-de-France et principal opposant.
Nous, on considère que c'est un hold-up et que c'est pas respectueux. La démocratie s'est exprimée. On parle beaucoup des valeurs du rugby. La première des valeurs du rugby, c'est de respecter la démocratie. Ils ont décidé de s'accrocher. Je regrette que la parole des clubs soit pas entendue et je regrette que le sens des responsabilités à un moment critique pour le rugby français, puisque on parle d'une Coupe du Monde sur notre territoire, tous les feux médiatiques sont braqués sur nous. Je regrette que les bonnes décisions ne soient pas prises.
Si la situation n'évolue pas, il faudra attendre le mois de juin pour organiser de nouvelles élections au sein de la Fédération française de rugby. Et puis en bref, un mot de football. 20e journée de Ligue 1, victoire de Lorient face à Rennes, 2-1. Au programme aujourd'hui, 3 Lens et Marseille-Monaco.
Il est 7h08, vous êtes sur RMC, la matinale week-end jusqu'à 9h, l'info, le sport, toutes les demi-heures, la météo, quand vous voulez, parce que Peggy Broche est là. Tiens, si vous voulez, 32-16, quel temps fera-t-il chez moi? Et Peggy vous répond, il n'y a aucun problème. Et vous discutez, vous témoignez de l'actualité. Tiens, dans un instant...
Faut-il faire payer les patients qui posent des lapins à leur médecin?
Et ça vous fait beaucoup réagir. Depuis 6h ce matin, avec ce chiffre, 27 millions de rendez-vous non honorés chaque année. Trop, c'est trop. Il faut sanctionner. C'est ce que dit Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Il est avec nous dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, il est 7h10, on commence la journée et elle sera belle puisqu'elle est en votre compagnie sur RMC. Écoutez et imaginez un peu le début de votre journée avec des rendez-vous qui vous plantent sans avoir prévenu, et ça 4, 5, 6 ou 10 fois par jour. C'est le quotidien de nos médecins en France.
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Jérôme Marty.
Bonjour.
Médecin généraliste à Fronton en Haute-Garonne, président de l'Union française pour une médecine libre. GG aussi sur RMC régulièrement. Jérôme Marty, vous vous battez contre ces poseurs de lapins depuis de nombreuses années. Avant de vous entendre, les faits avec Margot Bourdin. Margot, c'est une question qu'on pose à tous nos auditeurs ce matin. Est-ce qu'il faut faire payer ces patients qui posent un lapin à leur médecin?
27 millions, c'est le nombre de consultations non honorées chaque année par les patients. 6
à 10% des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Très concrètement, ça veut dire qu'un médecin perd 2 heures de consultation chaque semaine, l'équivalent de 16 jours de travail par an et 2 ans et demi dans sa carrière. Toutes les spécialités sont concernées par ces lapins, pas uniquement la médecine générale, et toutes les régions le sont également, y compris dans les déserts médicaux où les créneaux et les rendez-vous sont déjà rares et donc précieux. L'Ordre des médecins et l'Académie de médecine tirent donc la sonnette d'alarme dans un communiqué commun. C'est un problème de santé publique aux nombreuses conséquences. Perte de temps et d'argent pour les praticiens, perte de chance pour les patients qui ont besoin de consulter et qui n'ont pas pu obtenir un rendez-vous. Des patients qui se replient bien souvent sur les urgences déjà débordées.
D'autant que le phénomène s'aggrave.
Oui, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Plusieurs hypothèses avancées par les médecins. Il y a bien sûr le potentiel oubli et le contretemps de dernière minute, mais ça n'explique pas tout. Il y a une déconsidération de l'acte médical selon le Conseil de l'Ordre et l'Académie de médecine, et pour preuve, certains patients prennent des rendez-vous en double. On connaît le profil type de ces poseurs de lapins selon l'étude menée par les deux institutions. Il s'agit de patients plutôt jeunes, pas suivis par le cabinet, qui ont pris rendez-vous en ligne et qui consultent pour un motif bénin et aigu.
L'Ordre des médecins, l'Académie de médecine demande au pouvoir public de se saisir du problème.
Oui, les institutions réclament une campagne de sensibilisation du grand public, la possibilité de refuser ceux qui récidivent. Ils proposent de frapper les patients au portefeuille en imposant une dissuasion financière qui pourrait prendre plusieurs formes, soit une facture à payer éditée par le médecin, soit une retenue sur le montant des futurs remboursements par l'assurance maladie.
Merci Margot Bourdin. Jérôme Marty, vous avez même chiffré, vous, ce serait 5 euros. Pourquoi 5 euros ?
Oui, c'est ce qu'on avait chiffré à 4 ou 5 euros. Alors ça date de 2018. Pour que ce soit assez symbolique et que cet argent soit fléché à un fonds qui permette de résoudre les problématiques d'accès aux soins ou le désert médicaux, fonds qui serait géré par la profession. Mais depuis qu'on avait pris cette décision, vous l'avez dit, ce problème s'est aggravé et on se rend compte que certains de nos consoeurs ou de nos confrères ont 4 à 5, 6 rendez-vous non honorés dans la journée et on doit bien considérer que c'est aussi une perte financière pour eux. Et donc il faut considérer le fait qu'ils puissent être en quelque sorte indemnisé de cette perte financière.
Ouais, je reprends le chiffre, moi, qui m'a le plus interpellé dans cette étude. C'est l'équivalent de 2 ans et demi de carrière pour un médecin. 2 ans et demi de consultation perdue sur toute la carrière d'un médecin.
C'est l'équivalent de ça, et puis c'est l'équivalent de 4000 médecins sortis du soin tous les jours.
Et dans un problème, dans un contexte de désert médical, c'est à devenir fou, Jérôme Marty. Donc, ce serait maintenant davantage que 5 euros, mais concrètement, comment on fait ? On fait une pré-réservation directement sur Doctolib, un peu comme ça se fait pour les coiffeurs maintenant ou au restaurant ?
Alors, on pourrait avoir ce système de pré-réservation. On peut avoir un patient qui est ponctionné par l'assurance maladie directement lors de sa consultation suivante. Il faut résoudre deux problèmes. Un, il faut changer le code de santé publique pour qu'on puisse facturer un acte non réalisé. Ça, c'est la première chose. Et deux, il faut que l'on trouve sur le plan juridique, et ça, c'est le gros problème qui se pose à nous, le moyen de prouver ce rendez-vous non honoré. Parce que c'est un problème éminemment juridique qu'il faut arriver à trouver avant qu'il y ait une loi qui sorte.
Mais les ministères sont à l'écoute ?
Alors, ils sont à l'écoute. On sait qu'ils travaillent sur une grande campagne de santé publique, notamment avec la plateforme commerciale de prise de rendez-vous, vous le savez, Doctolib. Mais ça ne suffira pas. Il faut pas que faire une campagne d'information, un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique à l'époque.
Oui.
Il faut qu'à côté de ça, on ait aussi, il faut qu'à côté de ça, on ait la possibilité, effectivement, de pénaliser, en quelque sorte, les patients qui abusent.
Alors, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut faire payer les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous? On va en discuter avec Jean-Paul et Johan qui nous attendent au 32-16, Jérôme Marty. D'abord, le résultat de notre consultation Twitter, Margot.
Eh bien, pas de débat ce matin, vous répondez oui à 76%.
Tiens, comme Johan, donc, qui est avec nous depuis le Var. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, infirmier libéral, oui. Johan, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, vous aussi, vous voudriez faire payer vos patients. Ça vous arrive en tant qu'infirmier libéral ?
Ah oui, ça arrive régulièrement. Le patient, on se déplace chez lui et il a oublié de vous prévenir qu'il était absent, parti faire une course. Et comme le docteur l'a évoqué, le problème, c'est qu'on ne peut pas facturer, ne serait-ce que le déplacement, parce qu'on n'a pas fait de soins. Donc, ça pose le problème de se facturer, puisqu'on n'a rien fait.
Ça paraît donc, quand même complètement je peux pas facturer. Fou. Parce que le patient qui a pris rendez-vous, qui peut-être de bonne foi a oublié, ne se rend pas en cabinet. Oui. Mais là, que ce soit vous qui vous déplaciez, et en plus le patient qui n'est pas chez lui, ça paraît complètement dingue, Joanne.
Eh oui, mais là, alors c'est le revers de la gratuité des soins. Les gens pensent que le soin est gratuit, mais le soin est coûteux pour la communauté française. Donc le problème, c'est que tant qu'on ne tape pas au portefeuille, eh ben, les gens ne comprendront pas. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement.
Vous vous perdez combien si vous vous déplacez et que le patient n'est pas là?
Ça dépend le soin, mais déjà le déplacement, c'est en moyenne 2,50 €. Et après, ça dépend le soin que je fais. Mais si c'est un soin lourd, par exemple, un pansement, ça peut aller jusqu'à une 20aine d'euros, 30aine d'euros.
Alors, ne quittez pas. Jean-Paul est avec nous aussi depuis la Corse. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Vous seriez contre ce système de facturation, de sanctions? Pourquoi?
Non, pas forcément. C'est juste que je pense que les délais de rendez-vous sont tellement longs que les gens, ils peuvent pas prévoir ce qu'ils vont faire dans 6 mois pour honorer les rendez-vous qu'ils ont chez les spécialistes, tout simplement.
On a le temps d'oublier, quoi, Jean-Paul.
Ben, comme vous avez dit avant sur votre antenne, il y en a un qui a oublié d'aller chercher 1 million d'euros en Charente. Donc, je pense qu'il y en a qui vont oublier des rendez-vous chez le dentiste.
Bah, alors, ça, c'est vrai. Ça.
Je pense que le délai est beaucoup trop long.
Pour le coup, Jérôme Marty, ça c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que des patients qui oublient leur rendez-vous, ça pénalise ceux qui aimeraient le prendre dans la journée, des rendez-vous qui ne trouvent pas toujours repreneurs, mais avec cette problématique de déserts médicaux, les délais d'attente qui s'allongent, je prends un exemple tout bête, je prends rendez-vous chez le dermato aujourd'hui, il n'y a pas de place avant le mois d'avril, j'ai le temps d'oublier d'ici le mois d'avril.
Oui, mais alors, la plupart, 90% des rendez-vous qui ne sont pas honorés, c'est du soin aigu. C'est pas des soins programmés, c'est des soins aigus. Ce sont des jeunes actifs, souvent des couples qui travaillent tous les deux, qui ont des enfants, qui ont une vie à 100 à l'heure, et qui consomment du soin comme ils consommeraient un autre produit. Mmh. Et qui vont effectivement, par facilité, prendre rendez-vous avec un médecin, fût-il loin de chez eux. Entre-temps, ils vont trouver un médecin plus près, ils vont prendre aussi le rendez-vous là sans effacer le précédent. Et puis, ils vont en trouver un encore plus près, tout ça sur 15 jours. Et à ce moment-là, ils vont prendre celui qui est tout à fait prêt en ayant laissé les deux autres rendez-vous fermés en quelque sorte, puisqu'ils les ont pris. Et donc, ils ont volé 2 rendez-vous à d'autres patients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 24 millions de passages aux urgences chaque année. Et il y a 27 millions de rendez-vous non honorés. Même si on n'en résout qu'une partie, ben on résout la problématique des urgences qui sont débordées.
Jérôme Marty, j'ai une dernière question parce que il y a un autre cheval de bataille pour vous. Nouvelle fermeture des cabinets annoncée le 14 février par tous les syndicats de médecine libérale pour augmenter le montant du tarif des consultations.
C'est pour augmenter le montant de la consultation, c'est pour qu'on nettoie, qu'on facilite, qu'on simplifie nos professions. Écoutez, vous avez eu un collègue infirmier qui vient d'intervenir. Je veux dire, ils viennent de nous dire 2,50 € le transport. Est-ce qu'on se rend compte, le déplacement, est-ce qu'on se rend compte de ce pays qui paye 2,50 € une infirmière pour se déplacer, qui paye 25 € une consultation au plus bas de la moyenne européenne, ce pays qui veut avoir la meilleure médecine du monde mais qui veut pas payer ses soignants? Je veux dire, il faut qu'on revoie ça maintenant de fond en comble et qu'on arrive à avoir des tarifs qui soient à l'aune de notre rôle, de notre responsabilité.
Vous revendiquez, vous affirmez dans une lettre commune à Elisabeth Borne une enveloppe financière supplémentaire nécessaire pour atteindre les objectifs qui vous ont été fixés d'ailleurs par le ministre de la Santé. Nouvelle journée donc de mobilisation, les cabinets fermés. Attention, notez bien, le 14 février, si vous avez pris rendez-vous sur Doctolib, là, et ce sera peut-être le médecin qui ne sera pas là ce jour-là. Merci, docteur Jérôme Marty.
Merci à vous.
Merci à Johan aussi et Jean-Paul de nous avoir contactés au 3216. On poursuit ce débat, bien sûr, qui vous passionne sur l'appli RMC. Il est 7h20.
À suivre dans la matinale. Week-end.
On va parler de ces ultra-riches qui ne connaissent pas la crise.
La preuve par l'immobilier de luxe. Les prix des biens de prestige continuent de flamber. C'est le coup de main IMO dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Il est 7h21, allez, c'est l'heure de se réveiller en douceur. Le meilleur d'Arnaud Demange dans 2-3 minutes. Mais d'abord, votre rendez-vous immobilier.
Le coup de main immobilier.
Et nous sommes dans le très haut de gamme ce matin, l'immobilier de luxe, un secteur qui ne connaît pas la crise.
Ouais, c'est même tout l'inverse de ce qui se passe sur, pour nous, quoi, le marché classique du logement. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous.
Sur ce segment du prestige, eh bien les prix continuent de flamber.
Eh oui, guerre en Ukraine, hausse des taux d'intérêt et incertitudes économiques, rien ou presque ne semble pouvoir freiner le marché de l'immobilier de luxe. En fait, il suffit de regarder Paris, le territoire luxe par excellence. Alors que les prix sur le marché parisiens classiques sont déjà en baisse depuis près de 2 ans. Sur le segment du haut de gamme, les prix s'envolent toujours selon le spécialiste Daniel Féo. On est sur un prix moyen qui dépasse désormais les 17 000 euros du mètre carré. Ah oui, ça fait mal. C'est 11% de plus qu'avant la crise sanitaire, figurez-vous. Et plus spectaculaire encore, les surcotes des biens qui possèdent jardin ou terrasse. Là, toujours sur le marché du luxe, hein, évidemment, eh ben, le prix moyen au mètre carré, il monte à 21 000 euros.
Mais comment expliquer ça? Peut-être parce que les plus riches sont moins touchés par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.
Alors, le premier élément d'explication, ce qui est rare et cher, et le restera de toute façon. Ensuite, effectivement, on a les riches étrangers, alors qu'ils avaient déserté ce marché pendant la crise sanitaire, ils sont de retour en France et ils alimentent aussi forcément cette hausse des prix. Enfin, sur les taux d'intérêt et le crédit immobilier, c'est la triste vérité, mais pour les clients aisés, les banques, elles sont beaucoup plus généreuses. Et curieusement, des problèmes qui se posent pour le commun des mortels, ils se posent pas du tout pour eux. Écoutez, Caroline Arnoux, c'est la membre du comité exécutif du courtier CAFPI.
Pour le taux d'usure, vous êtes plus en mesure d'être en dessous du plafond du taux d'usure, du fait que les taux d'intérêt qui sont consentis à ces très hauts revenus sont parfois préférentiels. Comme les banques veulent attirer ce type de clientèle, ce sont des profils qui intéressent fortement les banques, puisque au-delà du crédit, les banques vont pouvoir les équiper avec des produits d'épargne ou avec d'autres tout type de produits d'assurance qui va permettre d'avoir des clients extrêmement rentables.
On ne prête qu'aux riches.
Ouais, alors pour bien vous rendre compte, effectivement, CAFPI relève qu'au deuxième semestre 2022, donc la moitié de l'année dernière, le taux moyen accordé pour les crédits au-delà d'un million d'euros, ce taux moyen, il était de 1,8%.
Ça fait rêver.
Ouais, surtout que pour vous et moi, en fait, Mathieu, le commun des mortels, comme je le dis, la moyenne sur la même période, elle était de 2,218 contre 2,2. Vous voyez bien la différence de traitement.
Bon, il y a peut-être une forme de revanche, parce qu'il y a certains spécialistes du marché du luxe qui vous ont expliqué qu'il y a un début de ralentissement quand même.
Oui, même pour eux quand même, le taux d'usure, vous le savez, vous le connaissez, où les contraintes d'endettement, elles peuvent poser problème. Le réseau Barnes, par exemple, explique les freins liés au financement bancaire. Et ces freins-là, ils dépassent pas traditionnellement les 0,5% des dossiers. Et maintenant, on est à 5% avec des refus de prêts qui peuvent concerner des projets à 7 millions d'euros quand même. Donc ça reste un problème. Enfin quand même, lorsqu'il y a blocage, il y a quand même plus de solutions pour cette clientèle très riche. Écoutez Caroline Arnoux.
Évidemment, ces clients vont avoir plus de latitude pour débloquer un dossier. Ils vont pouvoir, peut-être avec de l'apport, faire en sorte que ce dossier passe. Moins bloqué, mais quand même des banques attentives à ces profils, notamment sur des gros montants de crédit qui font engager de la liquidité pour les banques.
Conclusion, Mathieu, non, on ne prête pas qu'aux riches, mais on leur prête quand même beaucoup plus facilement.
Ah oui, quand même, c'est bien ce que je me disais. Merci Marie-Cœur de Roy, votre coup de main IMO, à retrouver en podcast sur l'appli RMC, 7h25.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Il vous fait rire, tous les jours depuis la rentrée de septembre. Arnaud de Manche avec le best-of, le meilleur d'Arnaud de Manche, le samedi, le dimanche. Très inspiré par la crise ouverte au Parti Socialiste, dont le congrès se tient ce week-end à Marseille.
C'est compliqué l'élection de Mister PS. Hein. Ça semblait difficile de creuser plus bas qu'ils étaient. Ils ont quand même trouvé des pelles, dites donc. Et alors, ils ont fait 1,75 au présidentiel. Ils cherchent visiblement quelqu'un capable de faire encore moins bien. C'est pas mal parti. Alors, Olivier Feur contre Nicolas Meyer-Rossignol, c'est Batman contre Superman. Hein, c'est Alien contre Predator. C'est les Charlots contre Dracula. C'est Shakira contre Piqué. On présente les deux stars. Olivier Feur, ancien directeur de cabinet de François Hollande et ancien coloc de Benoît Hamon. On a les lignes qu'on peut sur son CV. Et Nicolas Meyer-Rossignol, ingénieur chimiste et spécialiste de la biologie moléculaire. Moi, si j'avais été socialiste, je me serais dit, un mec spécialisé dans les molécules et les toutes petites structures, c'est lui qu'il nous faut. Sauf qu'il est chimiste et maire de Rouen. Et à Rouen, les usines n'arrêtent pas d'exploser en ce moment. Faudra peut-être lui confisquer son chlorure de phosphate à Nico, là, ou je sais pas quoi. Là, il est même parti pour faire exploser le PS. Il est énervé.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Alors, après un suspense haletant, vraiment haletant, moi j'étais passionné comme Apolline devant un épisode de sa série préférée, Petit secret entre voisins. Vous savez, la série avec des acteurs qui disent, des acteurs qui sont face caméra et qui disent, bon, là quand même, Pierre commençait à m'inquiéter. Son attitude était très suspecte. C'est un suspense de type typiquement socialiste. Donc, Olivier Faure se revendique vainqueur avec 50,83% des voix et déclare, c'est une victoire claire et nette. 50% de 22 personnes, c'est pas retentissant non plus. Les effectifs socialistes sont désormais divisés en deux équipes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un foot deux équipes de 11, je réglerai ça sur le terrain, moi. Ça marcherait très bien.
Arnaud Demange, tous les matins 7h20, 8h20 dans Apolline Matin et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur l'appli RMC et tous nos réseaux, notamment Instagram, pour redécouvrir Arnaud Demange en images. Allez, dans un instant, votre météo et l'info. Eh bien, c'est la perpétuité, la prison à perpétuité, 22 ans de sûreté, peine confirmée en appel pour Bruno Garcia, l'assassin de son ex-compagne Julie Douib. Le compte-rendu d'audience complet dans le journal de 7h30. 7h30 sur RMC, l'heure de l'info. Bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Mathieu Rouault, bonjour à tous.
À la une, la fin du procès en appel du féminicide de Julie Douib. Bruno Garcia, lourdement condamné.
L'ex-compagnon de Julie Douib, reconnu coupable de l'assassinat de son ex-compagne, il écope de la réclusion criminelle à perpétuité, comme en première instance d'ailleurs. Également déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants. Marion Dubreuil, vous avez suivi ce procès au tribunal d'Ajaccio jusqu'au verdict tard hier soir.
Bruno Garcia a tremblé dans son box, mais il n'a pas dit un mot. De l'autre côté de la salle, les parents et le frère de Julie Douib se sont enlacés, soulagés par ce verdict qui reconnaît le calvaire de la jeune femme de 34 ans. Son père, Lucien Douib, peut enfin souffler.
Il a été reconnu qu'il était dangereux. Voilà, je remercie la justice d'avoir pris conscience qu'il fallait en arriver là. Et puis on va reprendre notre vie en main, essayer de se reconstruire avec Jordan, mon fils, Violette et surtout les enfants.
Bruno Garcia a été déchu de son autorité parentale. La cour a estimé qu'il privilégiait son intérêt à celui de ses fils de 12 et 14 ans et qu'il n'était pas en état de leur apporter sécurité et protection. C'est une bouffée d'oxygène pour Jordan Douib.
Ça redonne aux enfants leur droit de choisir, tout simplement. Ils n'auront plus rien à subir. En fait, ils choisiront seulement ce qu'ils voudront faire quand ils voudront le faire.
Lucien et Violette Douib vont retrouver dès aujourd'hui leurs deux petits-fils. Bruno Garcia, quant à lui, a 5 jours pour se pourvoir en cassation.
On est toujours dans l'actualité judiciaire. 4 adolescents de 13 ans vont se retrouver devant un tribunal après la mort du jeune Lucas début janvier dans les Vosges. Le collégien qui avait mis fin à ses jours car victime de harcèlement scolaire. Les 4 mineurs seront jugés pour ce motif précis ayant entraîné le suicide de l'adolescent.
Direction les États-Unis avec l'image de la nuit. L'émotion de Joe Biden après la diffusion de la vidéo de l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain.
Des images choquantes qui ont poussé le président américain à réagir. Il se dit donc choqué, meurtri par la scène d'une rare violence. C'était au début du mois de janvier à Memphis quand Tyree Nichols a subi un contrôle routier. Les policiers essaient de le faire sortir de sa voiture. Ils utilisent des gaz lacrymogènes. Le conducteur tente de s'enfuir et c'est là que la scène dégénère, Antoine Lard.
Tyree Nichols est violemment tabassé, frappé à de très nombreuses reprises par 5 policiers qui s'acharnent sur lui. Il reçoit des coups de pied, des coups de matraque, des coups de poing. L'un des policiers, à 2 reprises par exemple, lui donne des coups de pied dans la tête alors qu'il est à terre et menotté. Sur la vidéo, on entend aussi l'agonie et les supplications du jeune homme qui appelle sa mère à l'aide. Il finit par tomber inconscient et pendant plus de 10 minutes, il va rester allongé sur le sol, menotté au poignet. Personne ne s'occupe de lui, personne n'appelle une ambulance. Tyree Nichols meurt finalement 3 jours plus tard à l'hôpital. Sa mère dit que les policiers, je cite, l'ont réduit en bouillie.
Le récit d'Antoine Lard, correspondant RMC BFM TV à Washington. Par ailleurs, les 5 policiers dont il est question, tous afro-américains, ont été inculpés pour meurtre après cette arrestation. Et puis en bref, en Israël, 7 morts dans une attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est par un Palestinien hier soir. Plus tôt dans la journée, l'État hébreu avait mené des raids sur la bande de Gaza.
RMC 7h33, Noël Le Graët, encore une fois accusé de comportement déplacé.
La parole se libère au sein de la Fédération Française de Football. Dans le journal L'Équipe ce matin, on apprend que Florence Ardouin, la directrice générale de la 3F, évoque des faits de harcèlement sexuel et moral, tout comme Aline Riera, la trésorière de la Fédé, qui s'est confiée durant le dernier comité exécutif et qui accuse Noël Le Graët de gestes déplacés envers Corinne Diacre, Valentin Jamin.
Oui, devant les membres du COMEX, Aline Riera évoque des propos tenus le 7 janvier dernier. Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres, dit Noël Le Graët à la sélectionneur Corinne Diacre, alors que cette dernière veut juste lui faire la bise. Le président en retrait aurait plusieurs fois, lors de réunions, utilisé des paroles lourdes, des mots déplacés, comme mon amour, pour s'adresser à la coach des Bleus. Noël Le Graët, absent lors de la réunion, a été informé de ces révélations, selon L'Équipe, et il aurait appelé Aline Riera pour lui reprocher cette sortie. Ces accusations s'ajoutent à celles de l'ex-directrice générale Florence Ardouin ces dernières heures et à celles de Sonia Swede, agent de joueuse. Le Gret toujours plus fragilisé, en attendant le rapport d'audit commandé par le ministère des Sports dévoilé ce lundi.
Allez les sports, côté terrain, bonjour Stéphanie Roch.
Bonjour Mathieu.
RMC, le journal des sports.
Et du football au programme ce soir avec un choc, Marseille-Monaco.
Une affiche entre deux équipes en forme, mais Marseille qui reste sur une incroyable série de 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, pourra une nouvelle fois compter sur le coaching d'Igor Tudor, un entraîneur aux méthodes parfois déroutantes, Florent Germain.
Oui, Marseille aime d'abord le caractère d'Igor Tudor, qui n'hésite pas à s'en prendre aux journalistes s'il faut, quand les questions ne lui conviennent pas.
Vous ne respectez pas le match contre Monaco, toi tu me parles de Mercato, et toi du match de coupe contre le PSG, ce n'est pas sérieux.
Igor Tudor, pas toujours tendre avec ses joueurs, a su imposer son style et un jeu offensif qui séduit les Olympiens, et notamment Samuel Gigot, le défenseur.
C'est un coach qui prend un jeu assez direct. On prend énormément de risques. Je pense que ça se met en place. Et je pense qu'aussi avec les résultats, ça nous donne une confiance.
Sifflé avant son premier match, l'entraîneur de l'OM a conquis les supporters marseillais. Igor Tudor apprécie, mais garde ses distances.
Je sors rarement dans Marseille. Je ne vais pas au restaurant ou en balade. Je suis là pour travailler. Mais c'est une ville de foot avec des supporters exigeants qui vous donnent beaucoup d'amour tant que les résultats sont au rendez-vous.
Meilleur signe d'affection pour cet OM d'Igor Tudor. Le Vélodrome sera encore à guichet fermé ce soir pour Marseille-Monaco.
Et un petit mot, Orient transfert, Marseille devrait dans les toutes prochaines heures officialiser l'arrivée de l'international marocain Azzedine Ounahi en provenance d'Angers, information RMC Sport, montant estimé du transfert, environ 10 millions d'euros. Et puis à noter, en ouverture de cette 20e journée, la victoire de Lorient, c'était hier soir, victoire de Lorient 2-1 face à Rennes.
Des Bleus encore en finale, c'est au Mondial de handball.
Ils ont fait plier la Suède 31-26, un succès maîtrisé de bout en bout, immense satisfaction du sélectionneur Guillaume Gilles après le match.
C'est pas du soulagement, l'émotion là, c'est une émotion réelle, c'est de la joie d'avoir été au rendez-vous de ce match qui était à tout sauf évident. C'est ouais, plein de satisfaction de se retrouver à avoir dominé cette équipe de Suède et de pouvoir prétendre à une nouvelle étoile dimanche contre le Danemark.
Une nouvelle étoile, ce serait la 7e si jamais il l'emportait face au Danemark. Les Bleus vont retrouver les doubles tenants du titre, les Danois donc, dans un remake de la dernière finale olympique. La France s'était imposée, peut-être en signe.
Et puis des finales, il y en aura aussi sur les courts de tennis australiens ce week-end. Les femmes d'ailleurs, dès ce matin, et les hommes demain.
Et ce n'est pas une surprise, Novak Djokovic sera une nouvelle fois au rendez-vous. Il sera opposé au grec Tsitsipas, un match qui a déjà commencé côté coulisses. Eric Salio.
Oui, Novak Djokovic a ciblé très vite son plus dangereux rival dès mercredi soir après son quart de finale. Il avait oublié que Tsitsipas avait disputé une finale de Chelem, ce qui avait donné lieu à une scène cocasse en conférence de presse.
Je crois qu'il n'a jamais joué de finale, je me trompe.
Vous l'avez battu à Roland-Garros à Paris. C'était un match où vous êtes revenu qui était extraordinaire.
Ah, c'est vrai. Désolé, c'est ma faute.
Réel trou de mémoire, petit rabaissement gratuit en tout cas. Vendredi soir, le grec n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. Lui aussi a eu sa crise d'amnésie.
I don't remember either.
Je ne m'en rappelle pas non plus. Non, pas du tout.
En balbutiant ces mots, Tsitsipas avait le masque. Ce 13e affrontement, le premier à Melbourne, s'annonce explosif.
Bon, ils s'en rappelleront peut-être un peu plus demain de se croiser sur cette finale du tournoi de l'Open d'Australie. Un petit chiffre pour vous donner une idée de ce qu'est en train quand même de réaliser Djokovic. En cas de victoire, il signerait son 22e succès uniquement en Grand Chelem. Il rejoindrait ainsi Rafael Nadal tout en haut du classement. Et puis on parlait de finale. Finale dame, elle débute dès 9h30. Elle mettra aux prises la kazakhstanaise Elena Rybakina à la biélorusse Arina Sabalenka. D'ailleurs, on retrouvera notre envoyé spécial à Melbourne, Eric Salio, dans le journal de 8h30.
Et à 8h40, juste après, Caroline Garcia, la numéro 1 française, numéro 4 mondiale, sera notre invitée sur RMC. Il est 7h38, voilà pour le programme. On vous attend, vous, bien sûr, au 32-16. Vous êtes nombreux ce matin, tous les sujets d'actualité sur la table, et parmi eux, celui-ci, notre rapport au travail. Est-ce que nous sommes tous devenus feignants ? Tiens, c'est la question qu'on vous pose ce matin, parce qu'il n'y a pas un jour sans une enquête sur ces Français qui rêvent de travailler moins, d'accorder plus de temps à leurs loisirs. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que notre système, notre société peut se construire, par exemple, sur un modèle de semaine à 4 jours ? Notre invitée Céline Marty, philosophe du travail, avec nous dans 2 minutes sur RMC.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Roux. Bienvenue sur RMC 7h42.
L'invité du jour.
Céline Marty, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, chercheuse en philosophie du travail, auteur de Travailler moins pour vivre mieux. C'est aux éditions d'Uno. On vous invite ce matin parce que je faisais le bilan de la semaine. Écoutez bien, lundi, enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Les Français accordent de moins en moins d'importance au travail. Ils ne sont plus que 20% à le considérer comme très important dans la vie, contre 60% en 1990. Mardi, enquête OpinionWay pour famille durable. Seuls 42% des moins de 35 ans se disent satisfaits de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Jeudi, sondage talent.com, 44% des salariés souhaitent réduire leur temps de travail. Et toujours jeudi, cette étude Manpower, un salarié sur trois prêt à diminuer son salaire de 5% en échange de la semaine de 4 jours. On veut plus bosser en France ?
Non, je pense que plus précisément, ce que veulent dire ces différentes études, c'est qu'on souhaite avoir un autre rapport au travail, notamment, en fait, passer moins de temps au travail. Là, ce que disent tous ces rapports, à savoir envisager la semaine de 4 jours, donc travailler 4 jours par semaine plutôt que 5, même avec une perte de revenus, ou bien vouloir un meilleur équilibre entre vie perso et vie pro, ça veut dire tout simplement qu'on veut passer moins de temps au travail.
Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi notre rapport au travail est en train de changer ? On nous dit toujours, c'est le Covid, mais c'est-à-dire, Céline Martin ?
Je pense que le Covid, ça a permis aux gens de mettre leur vie en pause, parce qu'on est souvent dans un rythme un peu effréné, où on ne se pose finalement jamais, surtout quand on a des enfants et la vie passe très vite et on a l'impression que le but c'est simplement d'arriver à la fin de la journée. Et là, en confinant les gens à domicile, ça a donné l'occasion de réfléchir sur le rythme qu'on avait et de se rendre compte que ce rythme il était peut-être trop intense, il ne convenait pas à nos aspirations. Et donc c'est ça qui a changé, je pense, avec le Covid, c'est que la roue du hamster s'est arrêtée à un moment et que là on nous a demandé de la reprendre à l'identique et qu'on se rend compte qu'on n'a pas envie de reprendre à la roue.
C'est stop. Mais c'est un changement profond du modèle de notre société qui, jusqu'à présent, était centré sur le travail. Personne ne se posait la question. Le travail, c'était parfois le plus important dans la vie. Est-ce que c'est ce qui explique aussi que la réforme des retraites suscite autant d'opposition ?
Oui, pour la réforme des retraites, puisque ce que veulent dire ces études, c'est on veut travailler moins de temps, et donc la réforme des retraites nous demande de travailler plus longtemps. Donc on voit bien finalement qu'elle n'est pas dans l'air du temps par rapport aux aspirations qui sont manifestées dans ces différents rapports. Après, de savoir si c'est un grand changement par rapport au temps antérieur, finalement les manifestations de 68 disaient déjà on ne veut plus perdre la vie à la gagner, on veut avoir une vie en dehors du travail. Mais c'est plutôt que...
En 68, c'était comme un idéal.
Non, mais c'était aussi des pratiques. Vous avez tout un mouvement dans les années 70 qui vise à travailler moins. Vous avez des livres dans les années 70 qui disent « travailler 2 heures par jour ». Et en fait, finalement, on a un peu oublié tout ça dans les années 80 avec la mondialisation, en nous disant le but, ça va être de rester compétitif face aux Chinois. Et je pense que cette pression de la mondialisation et du chômage, elle ne marche plus aujourd'hui. Elle n'arrive plus à convaincre.
En tout cas, on voit concrètement que ça commence à faire son chemin. La semaine de 4 jours, expérimentée en Islande, en Espagne, en Angleterre. 400 entreprises, selon le dernier comptage, le proposent aussi en France. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que si tout le monde s'y met, on peut imaginer une société du travail à 4 jours par semaine ? Tiens, David nous appelle au 3216 et souhaite discuter avec vous, Céline Marty. Bonjour David.
Bonjour l'équipe, bonjour à tout le monde.
Employé de mise en rayon dans le Loir-et-Cher, David. Semaine de 4 jours dans votre secteur, possible ou pas ?
Impossible. Et comme je disais dans mon message, en fait, moi je préférais même presque travailler un petit peu plus pour pouvoir partir à ma retraite normale plutôt que de faire des semaines 4 jours.
Ouais.
Enfin, en grande chute de distribution déjà, le Covid, enfin confinement, on n'a pas connu parce qu'on était en deuxième ligne. Donc, on a pas mal plus travaillé que d'habitude et on a pas mal morflé. Il y en a pas mal qui se sont mis en arrêt maladie après parce que ça a été quand même une cadence assez élevée.
Oui.
Et en fait, non, moi, je serais plutôt à contrario. Moi, je me verrais pas. Alors, après, j'étais papa au foyer 3 ans. Donc, j'ai pu profiter de ma fille, etc., certes. Mais, au bout de 3 ans, j'étais bien content de retrouver le travail. Et comme je viens de vous le dire, je préférais presque travailler un petit peu plus pour pouvoir partir à 62 ans parce que je me vois pas tirait des palettes de 600 kilos toute la journée.
Effectivement.
À 67 ans ou 68 ans.
Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que certains députés MoDem proposaient un amendement pour faire 35 heures et demie à l'occasion de la réforme des retraites et proposaient à ceux qui le souhaitent de partir avant 64 ans. Ça reste dans les débats. Mais ce que dit David, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on a chacun notre propre rapport au travail, mais on va avoir un problème, Céline Marty. Parce que la semaine de 4 jours avec ceux qui veulent bosser moins et avoir plus de temps pour les loisirs, ce sont les mêmes qui réclament que les magasins soient ouverts tout le temps, y
pas
compris dimanche. Comme
non, ça je ne pense pas. Et je pense que ce que dit David, c'est qu'en effet, ce qui est important, c'est de pouvoir moduler son rapport au temps.
Il n'y a pas ce risque d'une France qui profiterait de 3 jours de week-end pendant qu'il y en a une autre qui bosse ces 3 jours-là pour leur donner la possibilité de faire ce qu'ils veulent pendant 3 jours.
D'une part, la semaine de 4 jours, ça implique de réorganiser le temps de travail sur toute la semaine, mais ça n'implique pas qu'il y ait des commerces qui soient nécessairement fermés pendant 3 jours. Vous voyez bien que votre boulangerie près de chez vous, vous savez les jours où elle est fermée et en fait vous faites avec.
Oui, mais elle est fermée une journée par semaine.
Oui, mais finalement, si elle était fermée deux, eh ben, vous vous adapteriez. En fait, je pense que c'est pas dramatique. Que l'enjeu, c'est ensuite d'organiser le temps de travail différemment. Et ensuite, les consommateurs s'habituent aussi. Et que ce risque, je pense pas que les personnes qui veulent passer à 4 jours veuillent nécessairement que les autres travaillent plus longtemps pour compenser. Je pense que vouloir travailler moins, c'est aussi accepter que les autres travaillent moins et que tout le monde, finalement, prenne du temps en dehors du travail. Et ce que dit David, c'est que finalement il veut pouvoir faire un choix, il veut pouvoir faire un arbitrage en disant je préfère travailler un peu plus aujourd'hui quand je suis en forme et disponible pour mon travail pour pouvoir prendre ma retraite plus tôt. Et ce choix, cette possibilité de choix est cruciale en fait pour ne pas imposer aux gens des rythmes qui auraient été déterminés technocratiquement en disant là c'est 64 ans, là c'est 35 heures pile, etc. Cette importance de moduler en fonction des périodes de la vie, c'est hyper important et notre système de sécurité sociale ne nous permet pas forcément de le faire.
Céline Marty, merci de vos éclairages. En ces temps de bouleversement de notre rapport au travail et en ces temps de vives inquiétudes autour de la réforme des retraites, philosophe, chercheuse en philosophie du travail, votre dernier livre, Travaillez moins pour vivre mieux, aux éditions Dunod. Merci aussi à David d'avoir eu le réflexe 32-16 ce matin. Il est 8h-10.
À suivre dans la matinale week-end.
L'homme qui a marqué un tournant dans la guerre en Ukraine.
En acceptant d'envoyer des chars. Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui impose peu à peu sa politique à l'Europe entière. Son portrait avec Nicolas Poincaré dans un peu moins d'une minute.
RMC, la matinale week-end.
7h51 sur RMC, l'heure du portrait de la semaine.
RMC, la matinale week-end.
Le portrait de Poincaré.
Et chaque samedi, la personnalité qui a fait l'actualité de la semaine avec Nicolas Poincaré.
Et aujourd'hui, l'homme qui a sans doute impulsé un tournant décisif dans cette guerre en Ukraine, c'est Olaf Scholz, chancelier allemand. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour.
On a attendu toute la semaine sa décision sur les livraisons de chars lourds à l'Ukraine.
Et finalement, il a dit, l'Allemagne va bien livrer ses léopards aux Ukrainiens et surtout autoriser tous les autres pays qui possèdent des chars allemands à les céder à l'Ukraine. Olaf Scholz aura beaucoup hésité avant de franchir ce pas, au risque de passer pour un indécis. Le chancelier peine un peu à s'imposer sur la chaîne internationale. Il a succédé maintenant, il y a presque un an et demi, à l'indéboulonnable Angela Merkel. Les Allemands l'ont choisi pour son sérieux. Il est sobre, rassurant, il porte des costumes gris et des cravates de la même couleur. Il est surnommé le rigoureux ou bien Scholzomat, jeu de mots entre Scholz et automate, c'est une machine. Il a la réputation de toujours cacher ses émotions, de maîtriser ses dossiers, d'être un négociateur hors pair. Il a longtemps été le maire de Hambourg et il présentait des exercices budgétaires excédentaires. En 2018, lorsque Merkel a créé une coalition pour gouverner avec les sociaux-démocrates, il est devenu vice-chancelier et ministre des Finances et il s'est bien entendu avec la chancelière pour refuser l'idée même des déficits. Même si les choses ont depuis changé avec le Covid, il reste l'homme de l'équilibre budgétaire.
Rigoureux, sérieux, cravate grise sur costume gris, bref, c'est un Allemand. Et ses relations avec la France ne sont pas aussi bonnes que prévues.
Non, le couple franco-allemand bat de l'aile, même si Olaf Scholz est venu dimanche dernier à Paris pour célébrer les 60 ans de la réconciliation de 1963 entre De Gaulle et Adenauer. Mais à l'automne dernier, un conseil des ministres franco-allemands à Fontainebleau avait dû être annulé au dernier moment, tant les sujets de discorde étaient nombreux. La France reproche à l'Allemagne de vouloir mettre en place un bouclier de défense anti-aérienne qui implique 15 pays de l'OTAN, sauf la France. Les industriels allemands et français ont aussi un mal fou à se mettre d'accord pour fabriquer ensemble des chars et des avions de combat de demain. Il y a d'autres tensions sur les sujets importants de l'énergie et du gaz. En fait, depuis son élection, la France et l'Allemagne s'éloignent. Un journal allemand expliquait cette semaine que Olaf Scholz et Emmanuel Macron n'ont plus grand-chose à se dire.
Eh bien, merci Nicolas. Votre portrait à retrouver en podcast, bien sûr. Relation glaciale entre Scholz et Macron, bah, un peu comme le temps dehors.
Ah oui, je vous l'accorde, c'est vrai que ça caille pas mal ce matin. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais vous craignez peut-être pour la facture ici, le chauffage et l'eau chaude ne vous coûtaient plus rien.
Ah oui, tiens.
RMC, la matinale week-end.
C'est déjà demain.
Plus besoin de payer la facture. Mais oui, écoutez bien, ce sont des entreprises qui payent pour vous et qui peuvent même vous rapporter de l'argent. Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
Mais oui, des immeubles entiers chauffés gratuitement grâce à des ordinateurs.
Ben oui, on a tous constaté qu'un ordinateur qui mouline, ça chauffe. Donc pourquoi ne pas récupérer cette chaleur pour chauffer des bâtiments? C'est l'idée qu'a eu une start-up qui
fallait
s'appelle...
Fallait juste y penser
et le réaliser derrière quand même. Un Carnot Computing qui équipe maintenant certains immeubles à Bordeaux ou encore à Paris, des immeubles chauffés par des radiateurs ordinateurs. Alors ça ressemble à un radiateur classique, forme rectangulaire, il y a un thermostat pour monter ou baisser la température, mais à l'intérieur il n'y a pas d'eau ou d'électricité, il y a des processeurs informatiques. Et en fait ce radiateur ordinateur qui est connecté à Internet, il tourne en permanence. Et ces ordinateurs, cette puissance de calcul, alors c'est pas vous qui allez l'utiliser parce que vous n'allez pas avoir besoin de tout ça évidemment, ce sont des entreprises à distance qui vont s'en servir. Alors ça peut être pour faire de la modélisation 3D, de l'intelligence artificielle, des films d'animation, de la recherche scientifique, des choses qui sont très consommatrices. L'intérêt, bah, c'est que pour les particuliers, le chauffage devient gratuit, il n'y a plus de facture, parce qu'en fait, vous rendez un service à ces entreprises en stockant cette puissance informatique chez vous, quoi.
Et est-ce qu'on peut l'allumer de novembre à mars et l'éteindre?
Alors normalement, l'été? Oui, ça fonctionne. D'accord. Comme ça ne va pas chauffer de force pendant l'été. Hein. Il n'y a pas de souci, ça s'éteint, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Vous avez une autre innovation étonnante qui permet de gagner de l'argent en prenant sa douche.
Alors ça, j'adore, c'est le chauffe-eau électrique qui mine du bitcoin.
Oula, expliquez-nous.
Alors, je vais vous expliquer. C'est une start-up basée du côté de Metz qui a mis ça en place. Donc, en gros, c'est un chauffe-eau qui ressemble à un chauffe-eau normal, mais à l'intérieur, à la place d'une résistance qui chauffe, il y a 300 puces informatiques. Vous savez que le fait de miner du bitcoin, c'est un processus qui génère beaucoup de chaleur. En fait, ce sont des machines informatiques qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent, qui réalisent en fait des opérations de calcul complexes, et c'est ça qui va permettre de débloquer des fragments de bitcoin. C'est comme ça que ça fonctionne.
D'accord.
Et ça, ça chauffe très fort. Et donc là, c'est un peu le double effet qui se coule. C'est-à-dire que vous allez faire chauffer votre eau avec cette énergie-là. Et puis en même temps, vous allez récupérer des petits fragments de bitcoin. Donc vous allez gagner de l'argent.
En plus.
Alors attention, après, ça dépend évidemment des fluctuations du bitcoin. Vous savez bien que les crypto-monnaies, c'est très volatile. Donc il faut faire très attention à ce qu'on investit. Les créateurs de ce chauffe-eau disent qu'on peut récupérer entre 7 et 50 euros par jour sous forme de bitcoin. Bon, quand il faudra tester, sachant que le chauffe-eau coûte quand même 15 000 euros. Donc c'est un investissement au départ. Mais vous savez, il y a de plus en plus de Français qui s'intéressent aux cryptos. Il y a 8% des Français qui en ont déjà acheté. Donc ça peut être une idée assez intéressante.
Bah oui, merci beaucoup Anthony Morel pour l'idée du matin, la bonne douche chaude du matin, le petit café du matin et les infos du matin. Le journal de 8 heures dans 2 minutes.
RMC, la matinale week-end.